En 68 de l'ère des bunkers. Le système solaire en deux dimensions. Chung-Sin et A.A. transportèrent un premier lot d'objets jusqu'à la surface. En dehors d'une dizaine de peintures dont elles avaient retiré les cadres, elles avaient emporté deux chaudrons en bronze datant de la période des Chu orientaux et quelques vieux manuscrits. Sous une gravité normale de 1G, elles n'auraient jamais pu être en mesure de les déplacer, mais grâce à la faible gravité plutonienne, cela ne leur demanda aucun effort. Une fois dans le sas, elles firent comme Luoji le leur avait exhorté. Elles fermèrent d'abord la porte intérieure avant d'ouvrir celle qui menait à l'extérieur, ou bien elles et les objets auraient été soufflés par l'air qui se serait échappé du couloir. Lorsqu'elles eurent ouvert la porte extérieure, l'air du sas se transforma immédiatement sous l'effet du froid plutonien en une bourrasque de cristaux de glace. Elles crurent tout d'abord que les cristaux étaient illuminés par les projecteurs du halo, mais une fois la bourrasque passée, elles constatèrent que les projecteurs du vaisseau étaient éteints. Une lumière venant de l'espace éclairait la terre de Pluton, projetant sur le sol blanc les longues ombres de l'appareil et de la stèle noire. Elles levèrent la tête et reculèrent aussitôt de deux pas, saisies par la surprise. Dans l'espace, deux yeux les observaient. Deux formes ovales scintillantes, qui ressemblaient à s'y méprendre à des yeux, à la sclère blanche ou jaune pâle et aux iris sombres. C'est Neptune et la Ura... Oh non, c'est Saturne, fit A.A. en montrant le ciel. Les deux géantes gazeuses avaient été bidimensionnalisées. Uranus se trouvait au-delà de l'orbite saturnienne, mais comme la planète se trouvait actuellement de l'autre côté du Soleil, c'était Saturne qui avait chuté la première dans la deuxième dimension. Les deux planètes, une fois bidimensionnalisées, auraient dû apparaître circulaires, mais vues depuis Pluton, elles se présentaient au regard sous une forme ovale. Les deux géantes se révélaient sous la forme de cercles concentriques. Neptune était divisée en trois cercles. Le cercle extérieur constituait une magnifique boucle bleue qui paraissait être les cils ou l'ombre à paupières du grand œil. C'était l'atmosphère de la planète, composée d'hydrogène et d'hélium. Le second cercle était blanc cassé. Le manteau neptunien d'une épaisseur de 20 000 km que les astronomes supposaient être un océan interne d'eau et d'ammoniac. Au centre de couleur foncée, c'était le cœur de la planète, fait de roches et de glace, et dont la masse était à peu près celle de la Terre. La structure bidimensionnalisée de Saturne était similaire, si ce n'est qu'elle n'était pourvue d'aucun anneau bleu dans le cercle extérieur. À l'intérieur de chaque cercle figurait une quantité innombrable d'autres cercles plus petits qui dessinaient une composition exquise. À les regarder plus en détail, ces deux grands yeux ressemblaient davantage aux cernes de deux sections d'arbres fraîchement coupées. Autour des deux planètes se trouvait une dizaine de formes plus petites. Leurs lunes, elles aussi, bidimensionnalisées. Un grand cercle était vaguement visible à l'extérieur de Saturne, ses anneaux. On pouvait encore voir le Soleil au loin. C'était toujours la même petite soucoupe ronde qui parsemait l'espace d'une lueur jaune et chétive et qui permettait néanmoins d'appréhender l'immensité de la superficie des deux planètes bidimensionnalisées de l'autre côté du Soleil. Mais celle-ci n'avait plus aucun volume. Leur épaisseur était nulle. Sous la lueur de ces deux planètes, Chung-Sin et A.A. continuèrent à déplacer les objets le long de la piste d'atterrissage blanche pour les embarquer à bord du halo. La coque lisse et fuselée du vaisseau faisait penser à un grand miroir déformant dans lequel les reflets des deux planètes étaient étirés en longues lignes gracieuses. Cette image n'était pas sans rappeler les gouttelettes et laissait une impression rassurante de solidité doublée de légèreté. Durant le voyage qui les avait menés jusqu'à Pluton, AA avait dit à Cheng Xin qu'elle croyait deviner qu'une bonne partie de la coque du halo avait été conçue dans des matériaux à interaction forte. Une fois qu'elles furent proches du vaisseau, la porte inférieure s'ouvrit sans bruit. Elles empruntèrent l'échelle de l'appareil pour monter dans la cabine y déposer les objets, puis elles ôtèrent leurs casques et reprirent une longue respiration dans ce petit espace douillet. Elles se sentaient mieux. C'est comme si elles étaient de retour chez elles. Sans qu'elles en aient peut-être conscience, le halo était devenu leur foyer. Cheng Xin demanda à l'intelligence artificielle du vaisseau si elle pouvait recevoir des informations de Neptune et Saturne. Elle venait tout juste de poser sa question que des fenêtres d'information dégringolèrent partout dans la cabine, comme une avalanche de couleurs menaçant de les engloutir. Elles repensèrent à la fausse alarme, déclenchée 118 ans plus tôt. Mais les images diffusées en ce temps-là avaient été pour la plupart issues de rapports de presse. Or, il semblait à présent que les médias et les journaux avaient disparu. La plupart des fenêtres ne comportaient d'ailleurs aucun contenu, seulement du flou. Certaines tressautaient violemment, mais la grande majorité offrait des gros plans sans aucune signification. Une petite partie toutefois débordait de couleurs vives et, emportée par des courants changeants, elle donnait à voir des structures détaillées et complexes. Elle montrait peut-être les surfaces bidimensionnelles. AA pria l'intelligence artificielle de filtrer les images et de ne laisser que les fenêtres présentant un contenu pertinent. L'intelligence artificielle leur demanda de quel genre d'informations elles avaient besoin, et Cheng Xin répondit qu'elle souhaitait obtenir toutes les informations concernant les cités spatiales. Une bonne partie des fenêtres disparut aussitôt, et une dizaine d'entre elles apparurent en rang ordonné devant Cheng Xin et AA. L'une des fenêtres qui avait été agrandie se présentait au tout premier plan. L'intelligence artificielle expliqua qu'il s'agissait d'une image prise 12 heures plus tôt de la cité Europe 6, dans l'archipel de Neptune. Cette cité, qui appartenait à l'origine à une combinaison d'autres cités, s'en était extraite après la proclamation de l'alerte. L'image était stable et le champ de vision très large. La caméra était probablement positionnée au niveau de l'une des extrémités du plafond de la cité, permettant d'embrasser l'ensemble du regard. L'électricité avait été coupée sur Europe 6, et seuls quelques faisceaux de lumière appartenant à des projecteurs éclairaient faiblement l'autre côté de la cité. Les trois soleils artificiels à fusion nucléaire, suspendus au niveau de l'axe de la cité, étaient devenus des lunes, ne diffusant plus qu'une lueur froide et argentée. Leur utilité était de toute évidence d'éclairer la ville et non plus de lui fournir de la chaleur. La cité était de grande envergure et sa structure était un ovale standard. Il existait de grandes différences entre l'architecture actuelle des bâtiments de la cité et celle de l'époque où Cheng Xin et AA étaient entrés en hibernation. Il était évident que le monde des bunkers était devenu plus prospère et les immeubles qui l'abritaient n'étaient plus aussi uniformes que dans le passé. Leur style architectural était maintenant bien plus varié, et tous avaient gagné en hauteur. Les sommets de plusieurs tours atteignaient presque l'axe de la cité. Les bâtiments arboricoles avaient fait leur retour. Ils étaient au moins aussi larges que sur Terre, mais les feuilles suspendues à leurs branches étaient plus denses. On pouvait imaginer sans peine la beauté et la splendeur de l'océan de lumière de la ville nocturne, mais celle-ci était en cet instant éclairée par un clair de lune glacial. Les bâtiments arboricoles paraissaient être de vrais arbres, dont les longues ombres donnaient l'impression aux autres bâtiments de la ville d'être des ruines splendides, tapis au cœur d'une gigantesque forêt. La cité spatiale avait déjà cessé sa rotation, et tout était en état d'apesanteur. Il flottait partout dans la ville une myriade d'objets solides, parmi lesquels des véhicules et même des bâtiments entiers. Une volute ininterrompue de nuages flottait au niveau de l'axe de la cité, reliant les deux extrémités de la ville. L'intelligence artificielle du vaisseau dessina un rectangle sur l'image pour agrandir cette zone et ouvrit une nouvelle fenêtre. Cheng Xin et AA furent sous le choc. Ces nuages noirs n'étaient autres qu'une foule d'êtres humains suspendus dans les airs. Sous l'effet de la pesanteur, ceux-ci s'étaient rassemblés. Certains se tenaient la main, formant une rangée régulière, mais la plupart flottaient de façon autonome. Ils avaient tous revêtu des casques et des vêtements épais, qui devaient certainement être des combinaisons spatiales. Déjà à l'époque où Chung Sin était pour la dernière fois entré en hibernation, il était difficile de distinguer les habits ordinaires des combinaisons spatiales légères. Tous étaient équipés d'un sac pourvu d'un système de support de vie qu'ils tenaient dans la main ou portaient sur le dos. Mais la plupart avaient ouvert la visière de leur casque et il était possible de détecter une légère brise dans l'air, ce qui indiquait que l'atmosphère de la ville était toujours respirable. Beaucoup s'étaient regroupés près des soleils à fusion, peut-être autant pour profiter de leur lumière que de leur rémanence de chaleur. Les rayons lunaires des trois astres perçaient à travers la foule, saupoudrant la cité d'ombre et de lumière chamarrée. D'après les informations de l'intelligence artificielle du vaisseau, la moitié des 6 millions d'habitants d'Europe 6 avaient déjà évacué la cité, par vaisseau ou par capsule spatiale. Parmi les 3 millions restants, certains n'avaient pas eu les moyens de fuir, mais la majorité d'entre eux avaient surtout compris qu'il n'y avait aucun espoir d'en réchapper. Et même si des vaisseaux parvenaient réellement à échapper de la zone en train d'être bidimensionnalisée pour rejoindre l'espace lointain, l'absence d'écosystème autorégénératif ne leur permettrait pas de subsister longtemps à bord. Posséder un vaisseau interstellaire équipé de ce type d'écosystème était un privilège rare. Les humains avaient donc choisi d'attendre de rendre leur dernier soupir dans un lieu familier. Le son de la retransmission était activé, mais on n'entendait aucun bruit. Le nuage humain et la ville étaient plongés dans le silence. Tous les regards convergeaient dans une même direction. Une zone analogue à toute celle de la cité, traversée de rues entrecroisées et occupée par des blocs d'immeubles compacts. Elle n'avait rien de particulier. Ils attendaient. Dans la clarté froide et aqueuse des soleils argentés, les visages dans la foule étaient d'une pâleur fantomatique. Chung Sin repensa à cette aube sanglante qui s'était levée sur le continent australien 126 ans plus tôt. Comme à ce moment-là, Chung Sin eut la sensation de regarder une fourmilière depuis une certaine hauteur. L'amas de nuages noirs d'humains ressemblait à un nid de fourmis grouillantes. Un hurlement déchira soudain le silence. Au niveau de l'équateur de la cité, là où étaient dirigés tous les regards, apparut brusquement un point lumineux, comme un rayon de soleil tombant sur une maison noire par une fissure dans le toit. C'était l'endroit où aurait lieu le premier contact entre l'espace en deux dimensions et la cité Europe 6. Le point de lumière se dilata rapidement, jusqu'à devenir un ovale brillant. L'éclat qu'il projetait fut découpé en piliers de lumière par les immenses bâtiments environnants qui illuminèrent le nuage humain regroupé dans l'axe central. À cet instant, Europe 6 parut être un énorme paquebot touché par le fond, prêt à sombrer dans un océan bidimensionnel. Comme l'eau dans un navire sur le point de couler, la surface bidimensionnelle s'engouffra rapidement sur le pont et tout ce qui se trouva sur son chemin fut en un instant bidimensionnalisé. Les bâtiments furent taillés de façon nette par la surface bidimensionnelle grimpante et ils s'élargissaient à mesure qu'ils rejoignaient la deuxième dimension. Le sol de la cité ne composait qu'une infime partie de la cité globale, et la plupart des édifices se déployèrent donc loin, bien au-delà de l'ovale bidimensionnalisé. Sur cette surface en train de s'élever et de s'étendre, les couleurs chamarrées et les structures complexes se répandaient en un éclair dans toutes les directions, comme si la surface bidimensionnelle était une lentille à travers laquelle on pouvait observer d'énormes créatures colorées en train de galoper. Comme il y avait encore de l'air dans la cité spatiale, on entendait les bruits de l'effondrement du monde tridimensionnel dans la deuxième dimension. Des bruits de fracas, clairs et déchirants, comme si l'ensemble des bâtiments et la cité elle-même étaient une délicate sculpture de verre passant sous un rouleau compresseur. À mesure que la surface bidimensionnelle gagnait du terrain, le nuage humain commença à se mouvoir dans la direction opposée, comme un rideau tiré lentement par une main invisible. Chung-Sin eut l'impression de voir un vol d'oiseaux composé de millions d'individus se déplacer comme une seule et même entité vivante et se métamorphoser sans trêve dans un ciel crépusculaire. La surface bidimensionnelle eut au fait d'engloutir un tiers de la cité et se mit à scintiller frénétiquement sans que cela gêne son ascension. Elle se rapprochait déjà de l'axe d'Europe 6. Certains individus commencèrent à chuter dans la surface, peut-être en raison d'une avarie des propulseurs de leur combinaison spatiale, ou tout simplement parce qu'ils avaient abandonné la fuite. Comme des gouttes d'encre colorée perlant à la surface de l'eau, ils se propageaient aussitôt à son contact, devenant des êtres bidimensionnels à l'allure insolite. Sur une image agrandie par l'intelligence artificielle, Chung-Sin et A.A. purent voir un couple enlacé se laissant tomber dans la surface bidimensionnelle. Une fois aplatis dans la deuxième dimension, ils se retrouvèrent côte à côte. Leur posture était toutefois incongrue, comme s'ils avaient été dessinés maladroitement par un enfant ignorant tout des principes de la perspective. Une mère prête à sombrer brandit un enfant au bout de ses bras pour que celui-ci puisse vivre une microseconde de plus. Puis leurs corps se gravèrent en des figures vivantes sur cette gigantesque peinture. La surface bidimensionnelle continuait à s'élever, et la pluie d'hommes se fit peu à peu plus dense. L'image figée d'une foule compacte émergea à la surface. La plupart d'entre eux paraissaient vouloir se diriger vers les frontières de la cité. Quand la surface bidimensionnelle gagna l'axe central, la majorité des humains encore vivants s'était pressée de l'autre côté de la ville. La moitié d'Europe 6 était bidimensionnalisée et la superficie visible de la surface bidimensionnelle était à son maximum. En levant la tête, on ne voyait déjà plus cette cité familière de l'autre face, mais un terrible ciel en deux dimensions qui continuait à comprimer le monde tridimensionnel d'Europe 6. Il n'était déjà plus possible de s'échapper par la sortie du pôle Nord. La foule se rassembla alors près de l'équateur où se trouvaient les trois issues de secours. Des multitudes d'humains en apesanteur s'entassaient au niveau des sorties. L'espace bidimensionnel passa à travers l'axe et avala les trois soleils en fusion de la cité, mais la lumière émise par la bidimensionnalisation rendit le monde plus brillant qu'il ne l'avait jamais été. Il y eut un sifflement sourd. L'air de la cité s'échappait vers l'espace. Les trois issues de secours de l'équateur étaient maintenant entièrement ouvertes, chacune d'entre elles faisant la taille d'un terrain de football. Elles menaient directement vers l'espace encore tridimensionnel de l'extérieur de la cité. L'intelligence artificielle du Halo poussa une nouvelle fenêtre au premier plan, une image d'Europe 6 prise de l'extérieur. La portion bidimensionnalisée de la cité se déployait le long d'un plan invisible, tandis que celle encore en trois dimensions, en son centre, paraissait en comparaison minuscule, comme le dos d'une baleine émergeant à peine de la surface des eaux. Trois nuages de fumée noire s'élevèrent depuis la cité et furent dispersés dans l'espace. La foule d'êtres humains soufflait par les vents furieux provoqués par l'air qui s'échappait par les portes. Cette île solitaire dans un océan en deux dimensions continua de s'écouler et de se corroder, et en moins de 10 minutes de temps, la cité spatiale Europe 6 fut entièrement bidimensionnalisée. À l'image se déployait le panorama complet de la ville en deux dimensions. Il était devenu difficile de déterminer sa superficie totale tant elle devait être immense. Mais c'était une ville morte. Ou bien, aurait-on pu dire, le plan d'une ville à l'échelle 1:1. Sur cette somptueuse carte se reflétaient tous les détails de la ville, jusqu'à la plus petite vis, la plus petite fibre, le plus petit acarien, la plus petite bactérie. Tout y était reproduit à l'identique. Le degré de précision de la peinture était de l'ordre de l'atome. Chaque atome du monde tridimensionnel était projeté avec une régularité mécanique sur sa position relative dans l'espace bidimensionnel. L'un des principes immuables de cette reproduction était celui de la non-superposition. Aucun détail ne devait en cacher un autre. Tous les éléments, sans exception, apparaissaient côte à côte. Ici, la complexité remplaçait la grandeur, Il n'était pas aisé de lire et d'interpréter ce plan, bien qu'on puisse reconnaître sans peine le tracé global de la ville et sa structure macroscopique, comme les bâtiments arboricoles qui ressemblaient toujours à des arbres en deuxième dimension. Mais tout était devenu gigantesque et difforme. Il était presque impossible de deviner la forme tridimensionnelle originale de ces figures bidimensionnelles. Mais on pouvait être sûr qu'un logiciel de traitement d'images suffisamment performant y serait parvenu sans peine. Dans la fenêtre d'information, on pouvait encore apercevoir au loin deux autres cités spatiales bidimensionnalisées. Elles ne diffusaient déjà plus aucune lumière. Ces deux villes paraissaient être des continents plats flottant sur un océan d'encre qui se dévisageait d'un bout à l'autre de cette surface invisible. Mais l'image, peut-être saisie par un drone situé au-dessus de la cité, commençait elle aussi à sombrer. Et très vite n'apparut plus sur l'image qu'Europe 6. Près d'un million de personnes étaient parvenues à s'échapper d'Europe 6 par les sorties de secours. Glissant à présent avec l'espace tridimensionnel dans la deuxième dimension, ils tombaient à la manière de fourmis emportées par des cascades invisibles. Cette impétueuse pluie d'humains s'éparpilla sur la surface, démultipliant le nombre de formes humaines sur la ville bidimensionnelle. Ils occupaient une large superficie, mais paraissaient toujours minuscules par comparaison avec les immenses bâtiments bidimensionnalisés. Ils représentaient des symboles à forme vaguement humaine reproduits sur une carte de géant. Dans l'image de l'espace en trois dimensions apparurent de nombreux autres objets, les vaisseaux et les capsules ayant décollé plus tôt d'Europe 6. Leurs moteurs à fusion opéraient à puissance maximale, mais cela ne suffisait pas à les prémunir de leur chute inexorable vers la surface bidimensionnelle. L'espace d'un instant, Chung Sin eut l'impression que les longues flammes bleues crachées par les tuyères des moteurs étaient en mesure de transpercer la surface sans épaisseur de la ville. Mais les jets de plasma furent les premiers à être engloutis. En ces endroits, les bâtiments bidimensionnalisés furent distordus par les flammes. Peu de temps plus tard, ce fut au tour des vaisseaux et des capsules de rejoindre la carte. Suivant le principe de la non-superposition, les éléments déjà bidimensionnalisés s'écartèrent pour leur laisser de la place, comme des rides d'eau à la surface d'un étang. La caméra continuait à plonger vers la surface. Les yeux de Chung Sin étaient rivés sur la cité. Elle cherchait à y déceler un mouvement, une trace de vie. Mais ses efforts furent vains. En dehors de la déformation des bâtiments par les flammes, la cité spatiale était inerte. Les corps humains étaient immobiles et aucun indice de vie n'était détectable. C'était un monde mort. Une peinture morte. La caméra continuait à descendre en direction d'un corps bidimensionnalisé, dont l'un des membres emplit bientôt l'image, puis les fibres de ses muscles. Peut-être n'était-ce qu'une illusion, mais Chung Sin crut voir du sang s'écouler dans ses vaisseaux en deux dimensions. Mais cela ne dura qu'un instant, car l'image s'évanouit aussitôt. Chung Sin et A.A. commencèrent leur deuxième voyage vers le musée pour aller récupérer les pièces antiques. Après avoir été témoins de la bidimensionnalisation des deux cités, leur mission leur parut perdre le peu de sens qu'elles possédaient encore. Elles avaient compris que le processus de bidimensionnalisation suffirait à préserver la plupart des informations du monde tridimensionnel. Et même si des informations devaient être perdues, elles le seraient à l'échelle atomique. En raison du principe de non-superposition, les pièces du musée plutonien ne se mêleraient pas à la strate de la planète et les informations que représentaient les objets seraient préservées. Mais elles se devaient de mener à bien cette dernière mission. Comme l'avait dit Cao Bin, il valait mieux avoir quelque chose à faire plutôt que de rester inactif. En sortant du vaisseau, elles s'aperçurent que les deux planètes bidimensionnalisées étaient encore suspendues dans les airs, mais qu'elles s'étaient fortement assombries, rendant par contraste éclatant un nouveau cordon de lumière apparu au-dessus de Saturne et de Neptune. Cette ligne, formée d'innombrables points indépendants, traversait horizontalement l'intégralité du ciel comme un collier autour du système solaire. « Est-ce la ceinture d'astéroïdes ?» demanda Chung Sin. « Probablement. Ce sera ensuite au tour de Mars, » dit A.A. « Non, Mars est maintenant de l'autre côté du soleil. » Cette phrase, une fois prononcée, toutes deux firent le silence. Elles détournèrent leur regard du collier d'astéroïdes et se dirigèrent, muettes, vers la stèle noire. La Terre était la prochaine. Dans la grande salle du musée, elles virent Luoji qui avait rassemblé pour elle une pile d'objets à emporter. Parmi ceux-ci se trouvaient quelques rouleaux de peinture chinoise. A.A. déroula l'un d'entre eux. « La fête de Qingming au bord de la rivière !» annonça-t-elle d'une voix légère. Ni Chung Sin ni elle n'étaient plus grisés par la contemplation de ces œuvres si précieuses. Devant l'anéantissement spectaculaire qui s'opérait à l'extérieur, ce n'était rien d'autre qu'une vieille peinture. Lorsque les explorateurs futurs auraient l'occasion d'observer cet immense tableau que serait devenu le système solaire, ils auraient bien du mal à croire que ce rouleau de 24 cm de large sur 5 mètres de long ait pu un jour avoir une quelconque valeur. Chung Sin et A.A. invitèrent Luoji à les rejoindre sur le halo. Ce dernier répondit qu'il aimerait bien aller y jeter un coup d'œil et il alla chercher sa combinaison. Il bénéficiait ici d'une confortable annexe de vie, imaginée à l'origine pour les employés du musée. L'intérieur était pourvu de tous les derniers équipements et n'était clairement pas destiné à perdurer plusieurs millénaires. Lorsque tous trois passèrent la porte de la stèle, les bras chargés des caisses remplies d'œuvres d'art, ils furent accueillis par le spectacle de la Terre en train d'être bidimensionnalisée. C'était la première planète tellurique à chuter en deuxième dimension. Contrairement à Neptune et Saturne, la Terre comportait des cernes plus visibles et plus raffinées. Son manteau jaune tirait graduellement vers le rouge sombre de son noyau composé de fer et de nickel, mais sa superficie totale était bien inférieure aux deux autres planètes. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, ils ne virent pas une seule nuance de bleu. « Et nos océans ?» demanda Luoji. « Sans doute dans l'anneau le plus extérieur. L'eau en deux dimensions est presque entièrement transparente, on ne la voit pas, » dit A.A. Tous trois poussèrent leurs caisses et continuèrent à se diriger sans un mot vers le halo. La tristesse ne les avait pas encore frappés, tout comme on ne sent pas immédiatement la douleur d'un coup de couteau. Mais la planète Terre révéla ses merveilles. À ses confins apparut peu à peu un cercle blanc. Tout d'abord à peine visible, il devint vite éblouissant. Immaculé et sans imperfection, sa texture ne semblait toutefois pas uniforme. Il paraissait composé d'une infinité de grains blancs. « Regardez, voilà nos océans !» s'écria Chung Sin. « Oui, l'eau a été congelée par l'espace bidimensionnel, » ajouta A.A. « Il doit y faire une température glaciale. » « Oh !» Luoji voulut caresser sa barbe, mais sa main se heurta à son casque. Ils chargèrent leurs caisses sur le halo. Chung Sin et A.A. eurent la surprise de constater que Luoji paraissait très familier du vaisseau. Il avança à l'intérieur de l'habitacle et se rendit, sans avoir besoin des instructions des deux femmes, jusqu'à la soute de l'appareil. L'intelligence artificielle le reconnut et obéit aux ordres qu'il lui donna. Quand tout fut correctement rangé, ils retournèrent dans les quartiers de vie du vaisseau et Luoji demanda à l'intelligence artificielle de lui préparer une tasse de thé. Un petit robot que Chung Sin et A.A. n'avaient jamais vu surgit pour la lui apporter. Chung Sin exigea de l'intelligence artificielle qu'elle lui communique des informations de la Terre, mais celle-ci répondit qu'elle n'avait reçu que très peu de transmissions audio et vidéo en provenance de la planète, et qu'elle ne parvenait pas à identifier leur contenu. Les quelques fenêtres qui s'ouvrirent dans la pièce où ils se trouvaient permirent de le confirmer. Il s'agissait d'images floues issues de caméras déjà hors de contrôle. L'intelligence artificielle ajouta qu'elle pouvait fournir une image de la Terre capturée par un système de surveillance des vaisseaux. Elle ouvrit une nouvelle fenêtre de grande taille où l'image était intégralement occupée par la Terre en deux dimensions. Tous trois furent saisis par un sentiment d'irréalité. Un instant, ils se demandèrent même si l'intelligence artificielle n'avait pas elle-même créé une image de toute pièce.
« Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?»
cria A.A. avec surprise. « La Terre, il y a 7 heures. L'image a été prise depuis une distance de 50 unités astronomiques avec un grossissement angulaire de 450 fois. » Ils examinèrent en détail cette image holographique de la Terre saisie par un télescope. L'image de la Terre bidimensionnalisée était très nette, et les trois cernes affichaient une surface encore plus dense que ce qu'ils avaient vu précédemment. La planète avait peut-être déjà fini de sombrer, car elle devenait peu à peu plus sombre. Ils restèrent stupéfaits devant les océans congelés en deux dimensions. Dans ce cerne blanc et glacé qui encerclait la Terre, ils purent discerner les graines dont ils avaient plutôt supposé l'existence. C'étaient des flocons de neige. Des flocons d'une taille inconcevable. Cela ne pouvait pas être autre chose. Tous de forme hexagonale, mais aux dendrites uniques. Cristallins et translucides, ils étaient d'une beauté inexprimable. Pouvoir observer des flocons de neige à une distance de 50 unités astronomiques était en soi une expérience irréelle, et le fait que ces superflocons étaient alignés côte à côte sans se superposer rajoutait à cette scène incroyable. C'était comme des représentations artistiques de flocons de neige, puissamment décoratifs, qui faisaient passer ces océans glacés bidimensionnels pour une œuvre d'art scénique. « Quelle taille ont ces flocons ?» demanda A.A.
Leur diamètre est compris entre 4 et 5 000 kilomètres,
répondit l'intelligence artificielle de sa voix sempiternellement monocorde. Elle n'était pas dotée de la capacité de s'émerveiller.
Ils sont encore plus larges que la Lune,
soupira Chung Sin, époustouflé. L'intelligence artificielle ouvrit encore quelques fenêtres. Chacune montrait un agrandissement d'un flocon différent. Sur ces images, l'échelle était perdue. Chaque flocon paraissait être un petit esprit passé au microscope et prêt à se changer en goutte d'eau dès qu'une main l'aurait attrapé.
Oh !
Luoji parvint cette fois à se caresser la barbe.
Comment se sont-ils formés ?
Demanda A.A.
Je ne sais pas. Je n'arrive pas à réunir suffisamment d'informations sur la cristallisation de polymères dans l'espace,
répondit l'intelligence artificielle. Dans le monde tridimensionnel, les flocons naissaient en suivant les lois de la cristallogenèse. Théoriquement, ces lois ne limitaient pas la taille des flocons. Dans le passé, on avait par exemple découvert sur Terre un flocon ayant un diamètre de 38 cm. Nul ne connaissait le fonctionnement de la cristallogenèse dans le monde bidimensionnel, mais il semblait pouvoir permettre la formation de polymères ayant un diamètre de 5000 km.
Il y a de l'eau sur Neptune et sur Saturne, et l'ammoniac peut aussi former des cristaux. Pourquoi n'y voit-on pas de grands flocons ?
Demanda Chung Sin. Une nouvelle fois, l'intelligence artificielle ne donna aucune réponse. Luoji plissa les yeux et admira le paysage de la Terre bidimensionnelle.
Je trouve ça très bien que les océans aient formé ces flocons. La Terre est la seule à pouvoir se parer d'un tel collier.
J'aimerais tant savoir ce que sont devenues les forêts, les prairies, et puis aussi ces villes anciennes,
murmura lentement Chung Sin. Le chagrin les frappait enfin. A.A. se mit à sangloter. Chung Sin détourna son regard des océans flocons de la Terre. Ses yeux étaient gorgés de larmes. Luoji secoua la tête, poussa un soupir et continua à boire son thé. Leur tristesse était tempérée par le fait que ce monde, auquel il manquait une dimension, serait leur ultime foyer à eux aussi. Ils demeureraient à jamais sur le même plan que leur planète mère. Le cœur lourd,
Ils entreprirent un troisième voyage pour charger des pièces dans le vaisseau. Ils sortirent du halo et découvrirent en levant les yeux au ciel que les trois planètes en deux dimensions, Neptune, Saturne et la Terre, étaient devenues énormes. La ceinture d'astéroïdes, elle aussi, était devenue plus large. Cela ne pouvait être une hallucination. Ils interrogèrent l'intelligence artificielle qui leur donna la réponse suivante.
Le système de navigation a détecté une division du référentiel de navigation du système solaire. Le premier référentiel de navigation est le même qu'avant. Ses repères sont le Soleil, Mercure, Mars, Jupiter, Uranus et Pluton, ainsi qu'une partie de la ceinture d'astéroïdes et de la ceinture de Kuiper, qui correspondent tous à des repères identifiables. Le deuxième référentiel a fait l'objet d'une très grande variation. Neptune, Saturne, la Terre et une autre partie de la ceinture d'astéroïdes ont perdu leur fonction de repère de navigation. Le premier référentiel de navigation est en train de se déplacer vers le second référentiel, ce qui provoque le spectacle que vous observez à présent.
Dans les autres directions de l'espace, apparurent devant le fond d'étoiles un grand nombre d'objets en mouvement. Certains parmi eux diffusaient une lumière bleutée et traînaient de longues flammes à leurs poupes, les vaisseaux qui tentaient de fuir le système solaire. Certains d'entre eux traversaient une zone spatiale très proche de là où Chungsin, A.A. et Luoji se trouvaient. Leurs moteurs opérant à pleine puissance projetaient des silhouettes mouvantes sur le sol, mais aucun ne daignait vouloir atterrir sur Pluton. Mais il était impossible de s'échapper de la zone d'effondrement dimensionnel. L'intelligence artificielle l'expliqua en termes imagés. L'espace en trois dimensions du système solaire était un grand tapis tiré par une main invisible vers un gouffre bidimensionnel, et ses engins en fuite n'étaient que des insectes rampant lentement à sa surface. Ils ne pourraient guère prolonger leur existence éphémère.
« Allez-y, prenez-en encore quelques-uns, je vous attendrai ici, je n'ai pas envie de manquer ça, » fit Luoji.
Chungsin et A.A. savaient de quoi ils parlaient. Cette dernière scène qu'elles avaient peur d'affronter. De retour dans la grande salle souterraine, elles rassemblèrent encore grossièrement quelques caisses sans avoir le cœur à les choisir. Chungsin voulut emporter un crâne d'homme de Néandertal, mais A.A. le jeta dans un coin.
« Il y aura bien assez de crânes dans la peinture », se justifia-t-elle.
Chungsin se dit qu'A.A. avait raison. Les premiers Néandertaliens n'étaient après tout vieux que de quelques centaines de milliers d'années. Selon les prévisions les plus optimistes, le système solaire bidimensionnalisé n'accueillerait ses premiers explorateurs que dans plusieurs millions d'années, et, à leurs yeux, Néandertaliens et hommes modernes appartiendraient à la même époque. En observant les autres antiquités, Chungsin se sentit découragé. Pour elle, comme pour les visiteurs du futur, rien ne compterait autant que ce monde réel en passe d'être entièrement détruit. Elles jetèrent un dernier coup d'œil à la grande salle sombre, saisirent quelques ultimes objets et remontèrent. Sur sa toile, Mona Lisa regarda s'éloigner leur silhouette, esquissant son sourire mystérieux et funeste. Une fois de retour à la surface, elles virent qu'une autre planète en deux dimensions avait fait son apparition dans le ciel. Mercure. Vénus était de l'autre côté du Soleil. Elle était bien plus petite que la Terre, mais les rayons qu'elle émettait, maintenant que son processus de bidimensionnalisation était tout juste terminé, ne la rendaient pas moins éblouissante. Après avoir chargé les objets à bord du vaisseau, Chungsin et A.A. sortirent. Luoji, appuyé sur sa canne, leur lança.
« Ça ira comme ça. Contentez-vous de ces pièces, en prendre plus n'aurait aucun sens. »
Elles étaient du même avis, et décidèrent de se tenir elles aussi debout sur le plancher de Pluton, attendant avec Luoji la plus grandiose scène à venir, la bidimensionnalisation du Soleil. Pluton et le Soleil étaient séparés par une distance de 45 unités astronomiques. Tous deux se trouvant dans un même espace tridimensionnel en train de chuter dans la deuxième dimension, leur distance ne changea pas. Mais une fois que le Soleil fut entré en contact avec la surface bidimensionnelle, il cessa de se mouvoir, tandis que Pluton continuait à suivre tout l'espace tridimensionnel alentour en amorçant sa chute vers la deuxième dimension. La distance entre Pluton et le Soleil commença donc à se réduire rapidement. Au moment où la bidimensionnalisation du Soleil commença réellement, il était déjà impossible de discerner le moindre détail à l'œil nu. On ne constata qu'une augmentation soudaine de la luminosité de cet astre lointain. Ce deuxième phénomène était provoqué par son extension, à mesure qu'il rejoignait la surface bidimensionnelle. De loin, on croyait assister à une dilatation de l'étoile. À cet instant, l'intelligence artificielle du Halo activa une grande fenêtre d'information à l'intérieur du vaisseau. Y figurait une image holographique du Soleil saisie par un télescope. Mais tandis que Pluton se rapprochait dangereusement du Soleil, il fut bientôt possible de contempler à l'œil nu ce spectacle sans pareil. Sitôt le Soleil fut-il entré en contact avec la surface bidimensionnelle, que la partie chutée à l'intérieur de celle-ci se déploya rapidement de façon circulaire. Bientôt, le diamètre du Soleil aplani dépassa celui du Soleil en trois dimensions. Ce ne fut l'affaire que d'une trentaine de secondes environ. En se fondant sur le rayon du Soleil égal à 700 000 km, on pouvait en déduire que les bords du Soleil bidimensionnel se déployaient à un rythme de 20 000 km par seconde. À force de s'étendre, le Soleil forma un gigantesque océan de feu sur la surface bidimensionnelle, tandis que son disque continuait à sombrer au milieu de cette étendue rouge sang. 4 siècles plus tôt, sur le pic où avait été bâtie la base Côte Rouge, Iwonji avait elle aussi contemplé un coucher de soleil à l'orée de ses derniers instants de vie. Son cœur avait palpité avec peine, comme une corde de lutte prête à se briser. Une brume noire avait peu à peu émergé devant ses yeux, tandis que dans le ciel de l'ouest, le couchant semblait fondre dans une mer de nuages. Alors que les rayons du jour paraissaient s'unir à la mer argentée, le soleil avait fissuré les nuages et sa clarté s'était répandue dans le ciel, l'illuminant d'une magnifique couleur rouge sang. Elle y avait vu le crépuscule de l'humanité. À présent, le soleil fondait véritablement, et son sang se répandait sur la surface bidimensionnelle. C'était le dernier des crépuscules. Au loin, sur le sol de la piste d'atterrissage, se souleva une épaisse nappe de vapeur blanche. L'azote et l'ammoniaque solide de Pluton commençaient à se sublimer, et sa fine atmosphère dispersait la lumière du soleil. Le ciel n'était plus une étendue noire, il se teintait d'un soupçon de violet pâle. Au moment où le soleil du monde en trois dimensions se coucha, celui de la surface bidimensionnelle se leva. L'étoile aplatie rayonnait encore sur la surface bidimensionnelle et ce nouveau système solaire accueillit son premier rayon de soleil. Les faces des 4 planètes bidimensionnalisées, Neptune, Saturne, la Terre et Mercure, faisant face au soleil, s'illuminèrent. Mais seuls leurs confins arqués unidimensionnels purent recevoir ces rayons. Les majestueux flocons de neige qui encerclaient la Terre fondirent sous l'effet de cette chaleur, générant une vapeur blanche qui fut soufflée par les vents solaires de la peinture vers l'espace bidimensionnel. Une partie de cette vapeur absorba des rayons du soleil, et la Terre sembla se parer d'une longue toison d'or. Une heure plus tard, le soleil avait entièrement sombré dans la surface bidimensionnelle. Depuis Pluton, le soleil avait l'air d'un gigantesque ovale. En comparaison, les planètes passaient pour des fragments minuscules. Contrairement à celle-ci, le soleil ne présentait pas de cerne visible, mais il était divisé en 3 anneaux concentriques. Le noyau autour duquel se trouvaient ces anneaux était si étincelant qu'on n'en distinguait pas clairement les détails. Il correspondait probablement à la zone de fusion de l'étoile originelle. Le large anneau autour du cœur correspondait sans doute à la zone de radiation. C'était un océan bidimensionnel bouillonnant et rutilant, où des structures de formes cellulaires naissaient, disparaissaient, se scindaient et s'assemblaient à une vitesse étourdissante. Si l'observation partielle de cet océan de feu donnait une sensation angoissante de chaos, une vue plus large le faisait paraître merveilleusement ordonné. À l'extérieur de cet anneau, c'était la zone convective qui paraissait ne pas avoir beaucoup changé par rapport à celle du Soleil tridimensionnel. Cette région utilisait la convection de la matière stellaire pour transmettre de la chaleur à l'espace bidimensionnel, mais il n'y régnait pas le même chaos que dans la zone radiative. De nombreuses boucles de convection en forme d'anneaux réguliers, à la taille et à la forme presque identiques, se formaient les unes après les autres dans un ordre précis. L'anneau le plus externe correspondait à l'atmosphère solaire. Des courants dorés jaillissaient depuis les frontières circulaires du Soleil, esquissant un grand nombre de protubérances solaires bidimensionnelles qui ressemblaient à des danseurs lents, performant à leur guise des millions de chorégraphies, toutes différentes. Certains de ces danseurs s'échappaient même du Soleil pour aller s'ébattre plus loin, dans l'espace bidimensionnel. « Le Soleil est-il encore vivant, là-bas ?» demanda A.A. Elle exprimait un espoir qu'ils partageaient tous trois. En secret, ils priaient pour que le Soleil continue à illuminer la toile du système solaire, même si celle-ci était déjà sans vie. Mais leur espoir fut vite déçu. Le Soleil en deux dimensions s'assombrit. La lumière de son noyau diminua brusquement et il fut bientôt si sombre que l'on pouvait voir les structures circulaires à l'intérieur. La zone radiative s'obscurcit à son tour. Ses bouillonnements s'apaisèrent pour devenir de simples tortillements visqueux. Les boucles de la zone convective se déformèrent et se rompirent jusqu'à disparaître totalement. Les danseurs dorés et gazeux de l'anneau externe se flétrirent comme des feuilles mortes, perdant toute vitalité. On pouvait au moins être sûr d'une chose. La gravité existait encore dans l'univers bidimensionnel, car les protubérances solaires qui ondoyaient dans l'espace, ayant perdu le soutien des rayons, furent tirées vers le bas par la gravité solaire. Les danseurs se soumirent à la pesanteur et s'écroulèrent l'un après l'autre sans force, jusqu'à ce qu'enfin l'atmosphère solaire se métamorphose en un anneau plat aux bordures de l'astre. Suivant l'extinction du Soleil, les arcs illuminés des planètes bidimensionnelles s'obscurcirent eux aussi, et la toison terrestre formée par les océans sublimés perdit son éclat d'or. Tout dans le monde tridimensionnel mourut lors de ce grand effondrement dans la deuxième dimension. Rien ne survécut dans cette peinture sans épaisseur. L'univers bidimensionnel possédait peut-être son propre soleil, ses propres planètes et ses propres formes de vie. Mais si c'était le cas, elle naissait et évoluait selon une mécanique bien différente. Alors que leur attention était portée sur le processus de bidimensionnalisation du soleil, Vénus et Mars chutaient à leur tour dans la surface à deux dimensions. Mais ce spectacle semblait bien fade en comparaison de celui du Soleil. La structure en trois cernes de Mars et Vénus rappelait celle de la Terre. Aux extrémités de Mars se dessinaient des régions ciselées, celles où les strates géologiques de la planète renfermaient de l'eau. Cette vision tendait à faire croire que le sous-sol de Mars possédait bien plus d'eau que tout ce que les hommes avaient jamais imaginé. Après un moment, cette eau devint à son tour d'un blanc opaque, mais il ne se forma aucun flocon. Des flocons géants apparurent en revanche aux marges de Vénus, mais en nombre bien plus réduit que sur la Terre et de couleur jaune, ce qui suggérait qu'il ne s'agissait pas de cristaux d'eau. Peu de temps plus tard, le reste de la ceinture d'astéroïdes fut bidimensionnalisé, parachevant le collier qui encerclait déjà la moitié du système solaire. À ce moment, des flocons de neige apparurent aussi sur Pluton, des petits flocons qui perlaient du ciel violet pâle au-dessus de la planète naine. L'azote et l'ammoniac sublimés lors de la bidimensionnalisation du Soleil s'étaient transformés en flocons à cause de la chute brutale de la température causée par l'extinction du Soleil. La neige tombait de plus en plus fort et forma vite une couche épaisse qui s'accumula au sommet de la stèle et du halo. Bien qu'il n'y ait aucun nuage, la densité des flocons dansants troubla le ciel de Pluton. Le Soleil et les planètes bidimensionnalisées se brouillèrent derrière un rideau de neige. Un instant, le monde parut plus petit. « N'avez-vous pas l'impression que nous sommes rentrés chez nous ?» lança A.A. en décrivant avec les bras des cercles sous la neige. « Oui, c'est précisément ce que j'étais en train de me dire », approuva Chung Sin d'un signe de tête. À l'instar d'A.A., elle s'était imaginé que la neige n'appartenait qu'à la Terre. Les grands flocons apparus à ses extrémités n'avaient fait que renforcer cette sensation. Aussi les chutes de neige dans ce monde glacial aux confins du système solaire leur apportèrent-elles un peu de la chaleur de la planète qui les avait vues naître. En les voyant tendre les mains pour attraper les flocons qui batifolaient dans le ciel, Luo Ji lança un peu inquiet. « Hé, vous deux, vous n'allez quand même pas retirer vos gants ?» En effet, Chung Sin avait failli céder à la pulsion d'ôter ses gants pour attraper des flocons. Elle voulait ressentir cette légère fraîcheur, observer ces cristaux scintillants fondre sous l'effet de sa température corporelle. Mais naturellement, la raison l'emporta. Si elle enlevait ses gants, la sensation d'être revenue sur Terre disparaîtrait aussitôt, en même temps d'ailleurs que sa propre main. Car la température de ces flocons d'azote et d'ammoniac était de moins 210 degrés Celsius. Dans un environnement si glacial, sa main serait aussi fragile que du verre. « Les enfants, il n'y a plus de chez nous. Notre maison est maintenant une peinture », dit Luo Ji en secouant la tête appuyée sur sa canne. La neige d'azote et d'ammoniac ne tomba pas longtemps. Les flocons voltigeant dans l'air se firent peu à peu plus épars, et la teinte violacée de l'atmosphère constituée, elle aussi d'azote et d'ammoniac, se dissipa. Le ciel retrouva sa netteté noire. Le soleil et les planètes semblaient s'être agrandis depuis la chute de neige, mais ils ne se dilataient plus. Leur bidimensionnalisation était achevée et leur superficie déjà figée. Ce qui voulait donc dire que Pluton se rapprochait un peu plus de la surface bidimensionnelle. Après que l'averse de neige eut totalement cessé, dans le ciel, près de l'horizon, surgit une boule de lumière dont la luminosité s'intensifiait rapidement, dépassant bientôt le soleil bidimensionnel sur le point de s'éteindre. Aucun des détails n'était visible à l'œil nu, mais tous trois savaient que c'était l'emplacement de Jupiter. La plus grande planète du système solaire avait rejoint la surface bidimensionnelle. Pluton tournait lentement autour d'elle-même. Une partie du système solaire avait déjà sombré derrière l'horizon, et ils avaient tout d'abord cru qu'ils n'assisteraient pas à la fin de Jupiter, mais il semblait maintenant que la vitesse avec laquelle l'espace du système solaire chutait dans la deuxième dimension s'intensifiait. Ils demandèrent à l'intelligence artificielle du Halo de rechercher des informations sur Jupiter. Les images transmises étaient rares et, pour la plupart, le contenu était inidentifiable. Les seules informations disponibles passaient par les ondes radio. Sur chaque canal de communication et de diffusion, ce n'était qu'un océan de bruit, des voix humaines pour la majorité, comme si l'espace du système solaire était truffé d'êtres frétillants. Parmi ces voix, des hurlements, des cris, des pleurs, des rires hystériques et des chants. Mais on peinait à comprendre leur refrain au milieu de cette prodigieuse cacophonie. On devinait seulement qu'une foule reprenait à l'unisson une chanson lente et solennelle, comme un cantique. Chung Sin demanda à l'intelligence artificielle si elle pouvait recevoir des informations officielles qu'aurait envoyées le gouvernement fédéral. L'intelligence artificielle répondit que les communications du gouvernement avaient été interrompues après l'effondrement de la Terre en deux dimensions. Elles n'avaient jamais été rétablies par la suite. Le gouvernement de la Fédération du système solaire n'avait donc pas pu tenir sa promesse de mener sa mission jusqu'à la fin. aux environs de Pluton s'envolaient continuellement des vaisseaux en fuite.
« Les enfants, c'est le moment de partir !» annonça Luoji.
« Partons ensemble !» rétorqua Chengxin.
« À quoi bon ?»
sourit Luoji en secouant la tête et en se servant de sa canne pour désigner la direction de la stèle.
« Je serai aussi bien ici. »«
Très bien, vieil homme. Dans ce cas, nous attendrons qu'Uranus ait été bidimensionnalisé avant de décoller. Nous resterons ainsi quelques minutes de plus à tes côtés, »
proposa A.A. Au vu de ce qui allait advenir, il était superflu d'essayer de le convaincre. Même s'il acceptait finalement de monter à bord du Halo, l'inévitable conclusion serait tout au plus retardée d'une heure et, de toute évidence, Luoji ne se préoccupait guère de pouvoir vivre quelques instants de plus. Elle non plus, d'ailleurs, si elle n'avait eu cette mission à achever.
« Non, vous devez partir maintenant !»
insista Luoji sur un ton résolu, frappant le sol avec sa canne, ce qui le fit léviter sous l'effet de la faible pesanteur plutonienne.
« Nul ne peut savoir à quelle vitesse chuteront désormais les autres astres. Ne retardez pas votre mission. Nous pourrons rester en contact. D'une certaine manière, nous serons toujours ensemble. »
Chengxin hésita un instant et finit par hocher la tête.
« Eh bien, soit. Appareillons. Et restons en contact. »«
C'est ça. »
Luoji leur fit ses adieux d'un moulinet de canne, puis il se retourna et repartit en direction de la stèle. En faible gravité, il semblait glisser sur la neige et devait se servir de temps à autre de sa canne pour ralentir. Chengxin et A.A. accompagnèrent du regard la silhouette du vieillard qui avait été colmateur, porte-épée, et maintenant ultime gardien du tombeau de l'humanité, jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la grande porte du monolithe. Chengxin et A.A. retournèrent sur le Halo, qui décolla aussitôt. Ses propulseurs soulevèrent une brume neigeuse tout autour. Le vaisseau atteignit rapidement la vitesse de libération de Pluton qui n'était que 1 km/s et entra en orbite spatiale. Depuis les hublots et l'image du moniteur de surveillance, Chengxin et A.A. virent que la surface bleue et noire de Pluton était tachetée de neige, qui recouvrait notamment les lettres de « civilisation de la Terre » gravées dans toutes les langues, si bien qu'on les discernait à peine. Le halo passa entre Pluton et Charon, qui étaient si proches l'une de l'autre que le vaisseau parut traverser une gorge. Et dans cette gorge passaient d'autres étoiles mouvantes, des vaisseaux fuyards surgissant à une vitesse bien plus élevée que celle du halo. L'un d'eux frôla le halo à grande vitesse, à moins de 100 km de distance. Les flammes de ses propulseurs illuminèrent la surface lisse de Charon. On put apercevoir avec clarté la coque triangulaire du vaisseau et la flamme bleue longue de 10 km expulsée par ses propulseurs. L'intelligence artificielle du halo donna l'identité de l'appareil.
C'est le Mycène, un vaisseau interplanétaire de taille moyenne. Il ne possède aucun écosystème autorégénératif. Après avoir dépassé le système solaire, même avec un seul passager embarqué, le temps de survie à bord n'excédera pas 5 ans.
L'intelligence artificielle ignorait que le Mycène ne pourrait pas s'envoler hors du système solaire, tout comme aucun des autres vaisseaux en fuite, et qu'il ne survivrait pas plus de 3 heures dans le monde tridimensionnel. Le halo sortit de la gorge encaissée entre Pluton et Charon, laissant derrière lui ces deux mondes sombres et froids pour pénétrer dans le vaste espace. Chengxin et A.A. virent l'image entière du Soleil en 2 dimensions. La bidimensionnalisation de Jupiter était déjà presque achevée. Désormais, en dehors d'Uranus, la majeure partie du système solaire s'était effondrée.
« Mon Dieu, la nuit étoilée !» cria A.A.
Chengxin savait qu'elle parlait du tableau de Van Gogh. Et en effet, l'univers ressemblait réellement à la manière dont il y était représenté. Le souvenir qu'elle avait de la peinture se superposait presque parfaitement au système solaire bidimensionnel maintenant devant ses yeux. L'espace était rempli d'énormes astres, et la surface qu'ils occupaient était plus vaste que les interstices laissés entre eux. Mais l'immensité de ces objets célestes ne leur procurait pas mieux un sentiment de réalité, ils ressemblaient plutôt à des tourbillons spatio-temporels. Dans l'univers, chaque infime partie d'espace se déplaçait, se retournait, tremblait de peur et de folie, comme les flammes d'un brasier ardent diffusant un froid pétrifiant. Le soleil et les planètes, toute substance et toute existence, n'étaient rien d'autre que des hallucinations nées des turbulences de l'espace-temps. Chung Sin se remémora l'étrange émotion qui s'était emparée d'elle lorsqu'elle avait vu la nuit étoilée dans le musée new-yorkais. Tous les éléments de la peinture, ces arbres paraissant enflammés, ce village et ces montagnes nocturnes, appliquaient les lois de la perspective et de la profondeur, tandis que le ciel étoilé au-dessus de ces éléments ne possédait quasiment aucun relief. C'était comme une peinture suspendue dans l'espace. Cette nuit étoilée était en deux dimensions. Comment Van Gogh avait-il pu réaliser cette peinture? En 1889, il venait de subir une deuxième crise. Sa conscience fragmentée et délirante avait-elle pu franchir 5 siècles et assister à la scène dont Chung Sin était maintenant témoin? Ou bien, au contraire, avait-il vu l'avenir et sa vision du jugement dernier avait-elle constitué la véritable raison de son effondrement mental et, plus tard, de son suicide?
Les enfants, est-ce que tout va bien? Qu'avez-vous l'intention de faire à présent?
L'image de Luoji apparut soudain sur une fenêtre d'information. Il avait ôté sa combinaison spatiale et sa chevelure et sa barbe blanche ondulaient en faible pesanteur comme au milieu de l'eau. Derrière lui s'étendait ce tunnel conçu pour subsister 100 millions d'années.
« Allô, nous nous apprêtons à jeter les objets dans l'espace, mais nous aimerions garder la nuit étoilée, » répondit A.A.
« Gardez tout, ne jetez rien, et partez. »
Ces paroles déconcertèrent les deux femmes.
« Partir? Où ça ?»«
Où vous voudrez. Vous pouvez vous rendre dans n'importe quel coin de la galaxie. Vous aurez même l'occasion de rejoindre de votre vivant la galaxie d'Andromède. Le Halo peut naviguer à la vitesse de la lumière. C'est le seul appareil au monde équipé d'un moteur à propulsion par courbure. »
Le choc était tel que Chung Sin et A.A. étaient sans voix.
Après la mort de Wade, les occupants de la cité Halo n'ont pas abandonné leurs efforts. Peu de temps après la sortie de prison des responsables du groupe Halo, une nouvelle base de recherche secrète a été construite. Savez-vous où? Sur Mercure. Avec Pluton, c'était l'autre région la moins fréquentée du système solaire. Il y a 4 siècles, le collimateur Manuel Rey Diaz y avait percé un immense cratère à coups de puissantes bombes H. C'est dans ce cratère qu'a été établie la base. Le chantier de construction a pris plus de 30 ans, puis ils ont recouvert la base d'un grand dôme, prétextant que le complexe serait consacré à l'étude de l'activité solaire. Quelques avancées ont eu lieu et la base a pu se maintenir.
Un faisceau de lumière darda à travers le hublot. Chung Sin et A.A. l'ignorèrent. L'intelligence artificielle du vaisseau leur indiqua qu'Uranus connaissait en ce moment un changement de morphologie. En d'autres termes, sa bidimensionnalisation avait commencé. De l'autre côté du Soleil, Neptune était déjà en 2 dimensions. Rien ne se dressait donc plus entre la surface bidimensionnelle et Pluton.
35 ans après la mort de Wade, le projet de recherche sur la propulsion par courbure spatiale a redémarré sur Mercure, en repartant de l'étape où on avait réussi à propulser une mèche de cheveux sur 2 centimètres. Il y a eu quelques interruptions, dont je vous épargnerai les détails, mais la recherche s'est poursuivie sur 1 demi-siècle. D'une phase théorique, nous sommes rapidement passés à une phase expérimentale. Je ne reviens pas sur les difficultés, les détours et les obstacles auxquels les chercheurs ont dû faire face. Toujours est-il que pour mener à terme l'ultime étape de développement du projet, il était nécessaire de conduire une expérience de propulsion par courbure de grande envergure. Or, non seulement la puissance de la base mercurienne n'était pas suffisante, mais cette expérience laissait des sillages qui trahissaient l'objectif réel de la base. À vrai dire, il y a eu trop d'allées et venues dans la base pendant plus de 50 ans pour que le gouvernement fédéral n'ait pas pu se douter de ce qui se tramait sur Mercure. Mais en raison de l'échelle réduite des recherches et des expériences, engagées d'ailleurs sous le prétexte d'autres projets, la Fédération les a tolérées. Néanmoins, un essai à grande échelle nécessitait de coopérer avec le gouvernement. C'est ce que nous avons fait, et la collaboration s'est bien passée.
L'interdiction des recherches sur les vaisseaux luminiques a-t-elle été levée ? Demanda Chung-Sin.
Non. Quand je dis que le gouvernement a collaboré, c'est que...
Luo-ji frappa à nouveau sur le sol avec sa canne, d'un tic-tac qui manifestait son hésitation.
Nous en reparlerons. Il y a quelques années, nous avons finalement réussi à créer 3 moteurs à propulsion par courbure et nous avons pu effectuer 3 tests de vol luminique inhabité. Le moteur numéro 1 est passé en vitesse luminique à 150 unités astronomiques du Soleil. Il a parcouru une certaine distance à cette vitesse avant de revenir. Pour le moteur, l'expérience n'a duré qu'une dizaine de minutes, mais à notre échelle, l'aller-retour a pris 3 ans. Les moteurs numéro 2 et numéro 3 ont été testés simultanément. Tous deux se trouvent à l'heure actuelle au-delà du nuage d'Oort. Il est prévu qu'ils reviennent dans 6 ans dans le système solaire. Quant au moteur numéro 1, il a été installé à bord du Halo.
Mais pourquoi le Halo n'a-t-il embarqué que 2 passagers ? 2 hommes auraient pu venir avec nous ? Cria A.A. à Luo-ji. Ce dernier secoua la tête.
Le temps était compté. La coopération entre le gouvernement fédéral et le groupe Halo a été gardée secrète. Peu étaient ceux qui connaissaient l'existence des moteurs à propulsion par courbure, et encore moins nombreux étaient ceux qui savaient où était installé le seul moteur dans le système solaire. Et le danger rôdait. À l'heure de l'apocalypse, qui sait comment auraient réagi les gens ? Le Halo serait devenu l'objet le plus convoité du monde. On se serait peut-être entretué pour lui. Et rien ne serait resté. Par conséquent, une fois donnée l'alerte de l'attaque, il a fallu éloigner le vaisseau du monde des bunkers au plus vite, une question de temps. Si Cao Bin a envoyé le vaisseau sur Pluton, c'est parce qu'il voulait que vous m'embarquiez avec vous. Mais il aurait dû le faire partir à la vitesse de la lumière directement depuis Jupiter.
Pourquoi n'êtes-vous pas venu avec nous ? Lança A.A.
J'ai suffisamment vécu. Même si j'étais parti avec vous, je n'en aurais pas eu pour très longtemps. Je trouve ça très bien de rester ici comme gardien du tombeau.
Nous retournons vous chercher, annonça Chung-Sin.
Ne dites pas de bêtises, vous n'avez plus le temps.
L'espace en 3 dimensions où se trouvait le halo chutait rapidement dans la 2e. Le soleil bidimensionnel occupait déjà une bonne partie du champ de vision du vaisseau. Il était déjà entièrement éteint. C'était une mer grandiose, rouge, morte. À cet instant, Chung-Sin et A.A. remarquèrent que la surface bidimensionnelle n'était pas parfaitement plane. Elle ondulait. Une longue vague dont on ne voyait pas le bout roulait le long de sa surface. C'était ce même genre de gondolement qui avait formé des galeries dans la 3e dimension, par laquelle l'espace bleu et le gravité était entré dans la 4e. L'ondulation de la surface était visible même dans les zones sans objet bidimensionnel. C'était en quelque sorte l'auto-manifestation de l'espace bidimensionnel dans la 3e dimension, et elle n'avait lieu que lorsque la surface bidimensionnelle était assez vaste. Sur le halo, la déformation de l'espace provoquée par la glissade de plus en plus rapide vers la 2e dimension était déjà sensible. Chung-Sin remarqua que les hublots ronds étaient devenus ovales et la pourtant longiligne AA était maintenant trapue. L'espace s'étirait dans la direction où chutait le vaisseau, mais ni Chung-Sin ni AA n'éprouvaient de sensations inconfortables et aucune anomalie n'était détectée sur les systèmes du vaisseau. « Retour à Pluton !» cria Chung-Sin à l'intelligence artificielle. Puis elle se tourna vers Luo-ji. « Nous venons vous chercher. Il reste encore du temps.
Uranus n'est pas encore tout à fait bidimensionnalisé.
Parmi tous les administrateurs autorisés du Halo, Luoji est celui qui dispose de la plus haute autorité. Il est donc le seul à pouvoir décider de retourner sur Pluton,
répondit l'intelligence artificielle d'une voix mécanique. On entendit l'écho du rire de Luoji dans la galerie.
Si j'avais voulu partir, je serais monté dans le vaisseau avec vous. Je suis trop vieux pour ce genre de voyage. Ne vous faites pas de soucis pour moi, je n'ai rien manqué. Préparation à la propulsion par courbure.
Les derniers mots de Luoji étaient adressés à l'intelligence artificielle du vaisseau.
Paramètres de navigation ?
Demanda l'intelligence artificielle.
Eh bien, disons, la direction actuelle. J'ignore où vous voulez aller et je pense que vous non plus pour l'instant. Si vous avez une destination en tête, il vous suffit de l'indiquer sur la carte stellaire. Aujourd'hui, la plupart des vaisseaux interstellaires sont en mesure de naviguer en pilotage automatique vers n'importe quelle destination située dans un rayon de 50 000 années-lumière.
Opération en cours. Activation de la propulsion par courbure dans 30 secondes.
Devons-nous entrer en état de mer profonde ?
Demanda A.A. Mais elle était consciente qu'en cas de propulsion conventionnelle à une telle vitesse, aucun fluide ne les empêcherait de finir écrabouillés.
Aucun préparatif n'est nécessaire. C'est une déformation de l'espace. Il n'y a aucune hypergravité à craindre.
Moteur activé. Fonctionnement normal du système. Moment de torsion spatiale, 23,8. Taux de propulsion par courbure, 3,41 sur 1. Passage en vitesse luminique dans 64 minutes et 18 secondes.
Telle que la ressentirent Chung-Sin et A.A., l'activation annoncée par l'intelligence artificielle ressemblait davantage à un ordre d'arrêt du moteur, car le calme se fit autour d'elle. Elle savait que ce silence était lié à l'arrêt du moteur à fusion nucléaire, mais les bourdonnements du réacteur et des propulseurs n'avaient été remplacés par aucun autre son. Il était difficile de croire que quelque chose d'autre avait été enclenché. Cependant, des signes de la propulsion par courbure se manifestèrent bientôt. La distorsion de l'espace disparut peu à peu, les hublots redevinrent ronds, et A.A. retrouva sa silhouette fluette. Derrière les hublots, on voyait encore des vaisseaux en fuite dépasser le halo, mais à une vitesse singulièrement moindre. À cet instant, l'intelligence artificielle du vaisseau diffusa des échanges radio ayant lieu entre plusieurs vaisseaux en train de s'enfuir. Elle devait sans doute juger que leur contenu était lié au halo.
« Regarde, vite ! Comment ce vaisseau peut-il accélérer aussi vite ?»
s'écria une femme aux accents aigus.
« Oh mon Dieu, les passagers vont être écrasés !»
dit un homme. Puis il y eut une autre voix masculine.
« Ne soyez pas idiots. Un vaisseau qui accélère comme ça aurait lui aussi dû être écrasé. Ce n'est pas un moteur à fusion. C'est une propulsion par courbure. Une propulsion par courbure ? Un vaisseau luminique ? Un vaisseau luminique ? Alors les rumeurs disaient vrai. Ils ont bien construit secrètement des vaisseaux luminiques. Ils s'enfuient ! Ah ! Ah ! Ah !
C'était la voix de la première femme.
« Devant toi, intercepte-le, percute-le !»
Encore la femme.
« Ah ! Ils peuvent atteindre la vitesse de libération, ils peuvent s'enfuir, ils peuvent vivre ! Ah ! Je veux un vaisseau luminique ! Arrête-le ! Tue tous ceux qui sont à l'intérieur !»
Il y eut un autre cri, mais cette fois à l'intérieur du halo. C'était A.A.
« Mon Dieu ! Il y a maintenant deux Plutons !»
Chung-Sin se retourna vers la fenêtre d'information qui affichait l'image de Pluton saisie par le moniteur. Pluton était déjà loin, mais on pouvait la voir encore nettement. Comme le disait A.A., Pluton, tout comme son satellite Charon, avait en effet été dupliqué. Les deux Plutons se tenaient à une distance proche l'une de l'autre. Chung-Sin remarqua que les deux astres n'étaient pas les seuls objets à avoir été dupliqués. Une partie de la surface bidimensionnelle apparaissait aussi en deux fois, comme si un logiciel de traitement d'image avait copié la zone pour la coller légèrement plus loin.
Ce phénomène est dû au ralentissement de la lumière dans le sillage laissé par le halo,
expliqua Luoji. L'image de son visage était déformée, mais sa voix était toujours claire.
L'une des deux Plutons que vous voyez à présent correspond à l'image transmise par la vitesse de la lumière lente. Pluton étant encore en mouvement, elle transmet, une fois hors du sillage, une seconde image, cette fois à la vitesse de la lumière normale. C'est pourquoi vous voyez deux Plutons.
Un ralentissement de la vitesse de la lumière ? Cheng Xin sentait qu'un immense secret était en train de se révéler.
On m'a dit que vous aviez découvert la propulsion par courbure grâce à l'utilisation d'un voilier propulsé par un morceau de savon,
continua Luoji.
Laissez-moi vous poser une question. Lorsque le voilier a atteint l'autre rive de la baignoire, l'avez-vous repris et reposé dans la baignoire pour un deuxième essai?
Non, bien entendu. Par peur des intellectrons, Cheng Xin avait jeté le voilier. Mais il n'était pas difficile d'imaginer quel aurait été le résultat. Le voilier serait resté immobile, car après le premier voyage, la tension superficielle de l'eau dans la baignoire avait été réduite, supposa Cheng Xin.
Exact. Il en est de même pour les vaisseaux luminiques. Dans le sillage laissé par une propulsion par courbure, la structure de l'espace se modifie. Si un deuxième vaisseau identique s'engage dans le sillage produit par le premier vaisseau, il aura bien du mal à accélérer. Dans ce type de sillage, il faut faire appel à un moteur à courbure encore plus puissant. La courbure reste possible, mais la vitesse du deuxième vaisseau sera bien moindre que celle atteinte par le premier. En d'autres termes, dans la zone des sillages, la vitesse de la lumière dans le vide est réduite.
Jusqu'à combien peut-elle être réduite?
Théoriquement, jusqu'à zéro. Mais en pratique, cela semble impossible. Néanmoins, en distordant suffisamment l'espace, le moteur de propulsion par courbure du halo pourrait faire descendre la vitesse de la lumière dans cette zone, en dessous de la vitesse sur laquelle nous avons longtemps fantasmé. 16,7 km par seconde.
Ce qui créerait alors... A.A. fixait Luoji. Un champ noir, répondit mentalement Cheng Xin.
Un champ noir,
compléta Luoji.
Bien entendu, pour produire un champ capable de contenir un système planétaire entier, un vaisseau seul ne serait pas suffisant. Selon les calculs effectués, un champ noir capable d'englober le système solaire exigerait l'utilisation simultanée d'un millier de vaisseaux à propulsion par courbure. Ceux-ci devraient passer en vitesse luminique et se propager comme des rayons dans toutes les directions du système. Les sillages laissés se rejoindraient alors et esquisseraient une sphère apte à envelopper le système solaire tout entier. La vitesse de la lumière à l'intérieur ne serait que de 16,7 km par seconde. Le système solaire deviendrait alors un trou noir à vitesse luminique réduite, un champ noir.
Un champ noir est donc généré par des vaisseaux luminiques ? S'écria A.A. Dans l'univers, les sillages de propulsion par courbure pouvaient donc à la fois marquer le danger ou la sécurité. Si les sillages apparaissaient à proximité d'un monde, celui-ci apparaissait menaçant. S'ils enveloppaient le monde, il apparaissait inoffensif. C'était une corde de potence. Dans une main, elle était annonciatrice de danger. Autour d'un cou, elle était un gage de sûreté.
En effet, mais nous l'avons compris trop tard. Au cours des recherches menées sur la propulsion par courbure, les expériences l'ont emporté sur les théories. Comme vous le savez, c'était le style de Wade. Beaucoup de découvertes expérimentales manquaient d'explications théoriques. Or, sans cadre théorique clair, certains phénomènes n'étaient pas soupçonnés. Au début de ses recherches, à l'étape de propulsion de ta mèche de cheveux, les sillages étaient si fins et si insignifiants que personne ne les a remarqués. D'autres indices se sont bien manifestés par la suite, mais on les a ignorés. Par exemple, la réduction de la vitesse de la lumière a causé des dysfonctionnements dans les circuits d'intégration quantique des ordinateurs à proximité, mais jamais personne n'y a vu un lien. C'est seulement quand les tests ont été effectués à plus grande échelle que les hommes ont enfin compris le secret des sillages de la propulsion par courbure. C'est précisément pour cette raison que le gouvernement fédéral a accepté de collaborer. Pour tout dire, il a même pris une part primordiale dans cette entreprise. Des budgets appréciables ont été alloués à la recherche sur les vaisseaux luminiques, mais le temps n'a pas suffi.
Soupira Luoji en secouant la tête, sans rien ajouter de plus. Cheng Xin termina la phrase à sa place. Il s'est écoulé 35 ans entre l'incident de la cité Halo et l'achèvement de la base mercurienne. Le projet a pris 35 ans de retard. Luoji hocha silencieusement la tête. Il n'y avait plus aucune tendresse dans le regard qu'il portait sur Cheng Xin. Ses yeux étaient les flammes sur le bûcher du jugement dernier, et elle lut ceci dans ce regard. « Mon enfant, vois ce que tu as fait. » Cheng Xin comprenait désormais que, des trois portes de survie pour la civilisation terrienne, les projets bunkers, champs noirs et vaisseaux luminiques, seule la dernière constituait le choix juste. Yun Tianming lui avait montré la voie, et elle l'avait condamné. Si elle n'avait pas stoppé Wade, la cité Halo aurait sans doute obtenu son indépendance, et même si celle-ci aurait peut-être été éphémère, elle aurait probablement permis aux scientifiques de découvrir plus tôt les effets des sillages de propulsion par courbure, ce qui aurait changé l'attitude du gouvernement fédéral vis-à-vis des recherches sur les vaisseaux luminiques. Les humains auraient eu assez de temps pour construire 1000 vaisseaux de ce type et générer un champ noir autour du système solaire, le protégeant ainsi de cette attaque dimensionnelle. L'humanité se serait alors scindée en deux. Ceux qui auraient voulu s'envoler vers la nuit étoilée et ceux qui auraient voulu couler des jours tranquilles au sein du champ noir. Les premiers auraient embarqué à bord des vaisseaux luminiques, les seconds seraient restés dans le système solaire. Tous y auraient trouvé leur compte. Elle avait finalement commis une autre grave erreur. Par deux fois, elle s'était retrouvée dans une position de supériorité, avec seul Dieu au-dessus d'elle, et par deux fois, au nom de l'amour, elle avait précipité le monde dans l'abysse. Cette fois-ci, personne ne pourrait l'en extirper pour elle. Elle commença à haïr un homme, et cet homme, c'était Wade. Elle le haït pour avoir tenu promesse. Pourquoi ? Était-ce par fierté masculine ou pour elle ? Bien entendu, Cheng Xin savait que Wade ignorait à ce moment l'effet des sillages de la propulsion par courbure. En poursuivant les recherches sur les vaisseaux luminiques, son but n'était autre que celui énoncé par ce soldat anonyme de la cité Halo. Un combat pour la liberté, pour le droit d'être des individus libres dans l'univers, pour ces milliards de mondes au-delà du système solaire. S'il avait su que les vaisseaux luminiques représentaient le seul espoir de salut de l'humanité, elle était sûre qu'il aurait repris la parole donnée. Par conséquent, elle ne pouvait fuir ses responsabilités. Peu importe si elle avait été réellement la seconde après Dieu. Dans la position où elle se trouvait, elle ne pouvait se dérober. Sur Pluton, Cheng Xin venait de connaître les heures les plus reposantes de son existence. Devant la fin du monde à venir, elle s'était libérée de tous ses fardeaux. Ses soucis et ses angoisses s'étaient envolés et sa vie était retournée à l'état le plus pur, comme lorsqu'elle était sortie du ventre de sa mère. Elle n'avait alors plus qu'une chose à faire, attendre cette conclusion poétique, attendre de faire partie à son tour de l'immense fresque du système solaire. Mais maintenant, tout était bouleversé. Au premier temps de l'astronomie s'était présenté le paradoxe suivant. Si l'univers était infini, alors chacun des points du cosmos était soumis aux effets cumulatifs de la gravité de l'infinité des corps célestes. Cheng Xin se sentait en cet instant soumise à une gravité infiniment grande. Cette gravité provenait de chaque recoin de l'univers, écartelant son âme sans la moindre émotion. La terrible hallucination qu'elle avait connue 127 ans plus tôt, lors de ses derniers instants de porte-épée, refaisait surface. 4 milliards d'années-lumière s'accumulaient au-dessus d'elle. Elle suffoquait. L'espace était empli d'yeux qui la regardaient, ceux des dinosaures, ceux des trilobites et des fourmis, ceux des oiseaux et des papillons, ceux des bactéries. À eux seuls, les yeux humains étaient déjà plus de 200 milliards. Cheng Xin croisa ceux d'A.A. et elle lut ceci dans son regard. « Tu vis enfin une expérience pire que la mort. » Cheng Xin savait qu'elle devait continuer à vivre. A.A. et elle seraient les deux seuls rescapés de la civilisation terrienne. Si elle mourait, cela équivaudrait à tuer la moitié des terriens. Elle devait vivre. C'était le juste châtiment pour les fautes qu'elle avait commises. Mais leur trajectoire était vide. Cheng Xin savait au fond d'elle que l'espace n'était plus noir, il était sans couleur. Quelle destination aurait encore un sens? Où irons-nous? Murmura Cheng Xin.
Les rejoindre,
dit Luo Ji. Son image se brouillait encore, puis elle passa en noir et blanc. Tel un éclair, cette phrase illumina les pensées ténébreuses de Cheng Xin. A.A. et elle savaient de qui il parlait.
« Ils sont encore en vie, »
continua Luo Ji.
« Il y a 5 ans, le monde des bunkers a reçu un de leurs messages envoyés par ondes gravitationnelles. Le message était court et il ne donnait aucune indication sur leur destination. Au cours de votre voyage, le Halo enverra périodiquement des signaux par ondes gravitationnelles pour les appeler. Peut-être les trouverez-vous, ou peut-être qu'ils vous trouveront. »
L'image en noir et blanc de Luo Ji disparut, mais elle pouvait encore entendre sa voix. Sa dernière phrase fut celle-ci.
« Ah, il semble qu'il soit temps pour moi de rejoindre la peinture. Bonne route, les enfants. »
La communication avec Pluton fut définitivement coupée. Sur l'image du moniteur, Pluton s'éclaira et commença à se propager en 2 dimensions. Manifestement, la région où se trouvait le musée avait sombré la première. L'effet Doppler provoqué par la vitesse du halo était maintenant observable. L'effet n'était pas visible sur une étoile prise indépendamment, mais envisagées ensemble, les étoiles devant elles virèrent au bleu et celles de derrière au rouge. Ce changement de couleur se reporta aussi sur le système solaire bidimensionnel. À l'extérieur, on ne voyait déjà plus de vaisseaux en fuite. Le halo les avait déjà tous dépassés. À présent, tous les vaisseaux fuyards perlaient comme des gouttes de pluie sur la surface bidimensionnelle. Les signaux radio provenant du système solaire s'étaient déjà faits très rares, et en raison du décalage de fréquence produit par l'effet Doppler, les voix apparaissaient étranges, presque chantantes.
« Nous sommes si proches !» « Êtes-vous derrière nous ? Non, pas comme ça, pas comme ça. Ça ne fait pas mal, je te dis, c'est l'affaire d'une microseconde. Tu ne me crois toujours pas, eh bien tant pis. Oui, ma chérie, nous allons devenir aussi fins. Viens, nous serons ensemble. »
Cheng Xin et A.A. écoutèrent attentivement ces bribes jusqu'à ce que les signaux se fassent de plus en plus faibles et les voix de plus en plus espacées. Au bout de 30 minutes, elles entendirent le dernier son s'échappant du système solaire.
« Ah !»
Le cri fut aussitôt interrompu. Tous les autres bruits furent étouffés. Cette titanesque peinture qu'était le système solaire était achevée. Le halo continuait à se diriger vers la 2e dimension. Sa vitesse déjà élevée ralentissait sa chute, mais le vaisseau n'avait pas encore atteint la vitesse de libération. À cet instant, le halo était le seul objet humain du système solaire à ne pas avoir été bidimensionnalisé. Mais il n'en était pas loin. Vu de cet angle, le soleil bidimensionnel était devenu parfaitement plat, comme si on regardait la mer depuis le littoral. Il s'étendait à l'infini, imprégné d'une couleur rouge sombre. Pluton, qui venait juste d'être bidimensionnalisé, était devenu énorme et elle grandissait à vue d'œil. Cheng Xin examina ses cernes, cherchant une trace du musée, mais elle n'en trouva aucune. Il était bien trop petit. Le torrent qui emportait l'espace tridimensionnel vers la deuxième dimension semblait irrésistible. Chung Sin se mit à douter que la propulsion par courbure puisse réellement permettre au vaisseau de rejoindre la vitesse luminique. Elle espérait du fond du cœur que tout se termine ici, lorsque l'intelligence artificielle prit la parole.
Dans 180 secondes, le halo passera en vitesse luminique. Merci d'indiquer votre destination.
Mais nous ne savons pas où aller, balbutia A.A., confuse.
Vous pourrez sélectionner une destination après le passage en vitesse de la lumière, mais la navigation en vitesse luminique en tant que telle sera très courte, et nous prendrons le risque de dépasser votre destination. Le mieux est de vous décider maintenant.
J'ignore où aller les chercher, dit Chung Sin. L'existence des autres hommes apportait quelques couleurs à l'avenir, mais il était toujours aussi incertain. A.A. attrapa soudain la main de Chung Sin.
« Tu oublies ? Il y a encore quelqu'un d'autre dans l'univers ?»«
Oui, il y avait quelqu'un d'autre. » Un déluge d'émotions submergea Chung Sin. Jamais elle n'avait autant désiré le voir.
« Vous avez rendez-vous ?» fit A.A.
« Oui, nous avons rendez-vous, » répéta machinalement Chung Sin. La vague de sentiments à laquelle elle s'abandonnait la laissait interloquée.
« Alors, allons sur votre étoile !»«
Bien, allons sur notre étoile !» dit Chung Sin avec émoi. Puis elle demanda à l'intelligence artificielle.
« Peux-tu localiser l'étoile DX3906 ?» C'est un code datant de la Grande Crise.
Oui, son code actuel est S74390E2. Veuillez confirmer.
Une grande carte stellaire holographique s'afficha devant elle. Elle montrait toutes les étoiles dans un rayon de 500 années-lumière autour du système solaire. L'une d'elles clignotait en rouge, désignée aussi par une flèche blanche. Chung Sin connaissait trop bien cette étoile.
« Oui, c'est elle. Allons-y !» ordonna Chung Sin en hochant la tête.
« Destination sélectionnée. Passage en vitesse luminique dans 50 secondes. »
La carte stellaire disparut et tout autour d'elle s'évanouit. L'environnement autour du vaisseau s'assombrit et Chung Sin et A.A. se sentirent flotter dans l'espace. L'intelligence artificielle n'avait encore jamais activé ce mode d'affichage holographique. Dans la direction où elle s'apprêtait à faire cap, se trouvait la Voie lactée, devenue d'un bleu pur qui leur rappela les océans de la Terre. Derrière, c'était le système solaire bidimensionnel. Le Soleil et les planètes étaient enveloppés d'une membrane rouge sang. Un changement brutal se produisit dans la représentation de l'univers. Toutes les étoiles devant elles convergèrent dans la direction qu'elles avaient sélectionnée, comme si la moitié du cosmos était devenue un grand bol noir et que les étoiles glissaient le long de ses parois. Très vite, elles se rassemblèrent en un seul amas stellaire compact dans lequel il n'était plus possible de distinguer des étoiles individuelles. Elles s'étaient condensées en un énorme saphir éblouissant. De temps à autre, quelques étoiles s'échappaient de l'amas de lumière, franchissaient l'espace noir avant de disparaître à grande vitesse derrière le halo, leurs couleurs changeant sans cesse, du bleu au vert, puis au jaune et enfin au rouge une fois passé le vaisseau. À la poupe du halo, ce système solaire bidimensionnalisé se condensait aussi avec les étoiles en un seul amas rouge, comme un resplendissant feu de camp allumé aux confins de l'univers. Le halo s'envolait à la vitesse de la lumière vers l'étoile que Yun Tianming avait offerte à Chung Sin.